Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais, ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe, nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux ou retrouver le podcast sur iTunes et sur rage.fr. Ce mois-ci, nous parlons de l'impact écologique de nos objets, des objets trop souvent polluants et dangereux pour la planète, mais aussi pour les êtres humains. Un seul chiffre pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts. Depuis 1950, l'homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes de plastique. Et puis, je ne vous parle même pas des toxiques présents dans tous ces objets, phtalates, perturbateurs endocriniens, bisphénol A, triclosan, la liste des composants chimiques dangereux pour la santé présents dans notre quotidien est trop longue pour en faire l'énumération pendant cette émission. Et même si de plus en plus de lois réduisent la place du plastique des produits chimiques dans nos vies, il reste encore beaucoup de travail à faire. Heureusement, pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons Aline Gubry, auteure du livre « Zéro plastique, zéro toxique » et fondatrice du blog « Consommons sainement ». Avec Aline, nous discuterons des moyens efficaces et accessibles pour adopter des habitudes plus saines pour le vivant dans sa globalité. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est outre-Manche que ça se passe, puisque le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré l'urgence climatique et exhorte le gouvernement britannique à l'action pour éviter un effondrement écologique. Londres s'est engagé à devenir neutre en carbone d'ici 2050, mais une motion appelle à avancer cette date à 2030. Ce sursaut, qui n'est sans doute pas étranger au mouvement de désobéissance civile baptisé Extinction Rebellion, vous avez entendu mon magnifique accent anglais depuis fin octobre, eux tentent d'interpeller les pouvoirs publics en organisant des actions de blocage. Sadiq Khan, donc le maire de Londres, ajoute « Mon message est clair, cessez de traîner les pieds et de jouer avec notre avenir et donnez à Londres et aux villes du Royaume-Uni les pouvoirs réels ainsi que le financement nécessaire pour protéger nos générations futures. » Voilà, ça c'est dit, en espérant que cette annonce soit suivie de nombreuses autres. J'accueille tout de suite Aline Gubry, auteure du livre « Zéro plastique, zéro toxique » et fondatrice du blog « Consommons sainement ». Bonjour Aline.
Bonjour.
J'arrête de parler, à toi de nous raconter, je disais en introduction ce constat terrible de l'impact de nos objets sur l'environnement et sur notre santé. Est-ce que c'est vraiment si terrible que ça?
Oui, c'est malheureusement assez terrible. Moi, je pensais pas du tout ça il y a 4 ou 5 ans, quand j'étais quelqu'un avec des habitudes de consommation classiques, on va dire. Et un jour, je suis tombée sur un article sur le zéro déchet. D'abord, j'étais un peu sceptique. Ensuite, je me suis retrouvée un peu bête face à ma poubelle énorme de 30 litres que je remplissais moi seule chaque semaine. Donc, j'ai décidé de réduire mes déchets. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, de mes lectures, parce qu'on devient très curieux dans ces cas-là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je réduisais mes déchets, donc c'est-à-dire j'utilisais moins de plastique dans ma cuisine, moins d'emballage alimentaire, je faisais mes cosmétiques moi-même très facilement, etc. En fait, c'est pas seulement mes impacts environnementaux que je réduisais, c'était aussi l'exposition de mon corps, de ma santé, à des substances potentiellement toxiques au long terme. Donc c'était tous les plastiques qui sont en contact prolongé avec nos aliments, c'était tous les perturbateurs d'hormones qui sont dans les produits cosmétiques, les produits ménagers, industriels, etc. Et donc en fait, ces perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ces perturbateurs d'hormones, certains peuvent donc pénétrer dans le corps, certains vont s'accumuler dans des organes. Et au bout d'une certaine quantité accumulée au fur et à mesure des jours, des années, etc., il peut y avoir des conséquences vraiment à ne pas prendre à la légère, notamment des augmentations des risques de cancer. Il faut savoir aussi que les enfants, les bébés, les fœtus sont particulièrement vulnérables à ça.
Donc toi, tu t'es rendu compte de ça, tu as commencé à agir, tu l'as raconté sur un blog qui s'appelle Consommons sainement, on en parlera tout à l'heure, et tu vas nous donner en plus des actions très concrètes pour éradiquer au maximum ces produits plastiques et ces produits toxiques que nous avons dans notre quotidien. Mais avant ça, j'étais très curieux que tu me racontes comment tu as décidé de prendre le train en marche. J'ai quand même cette impression qu'on voit en permanence passer devant nos yeux, bon, aujourd'hui sans doute plutôt plus qu'avant, des informations qui nous disent attention. Attention, il y a plein de choses qui vont pas dans nos habitudes et souvent on fait pas suffisamment attention justement où on veut pas voir ça.
Ouais, parce que ça fait peur, ça peut faire très peur. Et moi d'abord ça m'a fait peur, donc quand j'ai lu pour la première fois un article sur zéro déchet, et en fait moi j'ai toujours eu une espèce de conscience environnementale de par mon éducation. Que j'ai eu, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma famille. Et donc je me disais écologique parce que je triais mes déchets, que j'achetais quelques produits ménagers dits verts. Et pour moi, je faisais ma part. Je pouvais pas faire plus, etc. Parce que on sait pas en fait souvent qu'on peut utiliser moins de plastique, qu'on peut réduire ses déchets, que c'est facile, c'est possible et facile. Et donc j'ai fait plein d'expérimentations. Pendant un an, j'ai testé plein de recettes, de déodorants, de produits ménagers, etc. Y en a qui ont marché, d'autres moins. Et au bout d'un an, j'étais en fait arrivée au presque zéro déchet. C'est-à-dire que j'avais réduit quasiment à néant mes déchets non recyclables et non compostables. Et j'avais une poubelle assez petite de déchets recyclables et du compost, évidemment. Et donc, après, j'ai fait plein de recherches et je me suis rendu compte notamment que, premièrement, donc je protégeais ma santé. Deuxièmement, en fait, ça avait été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Et donc, il n'y avait pas de raison que ça me fasse vraiment peur parce que, en fait, j'avais pris que des recettes de cosmétiques, par exemple, qui étaient très faciles avec des produits de mes placards de cuisine, des recettes où il n'y avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit sur Internet, pas de matériel, pas de pare-marie, pas de trucs compliqués qu'on peut voir sur Internet. Et donc ça protégeait ma santé. C'était économique, c'était facile et en plus, c'était économique. C'est-à-dire que moi, j'étais prête à faire quelques sacrifices financiers. J'étais étudiante à l'époque, mais j'étais même prête à payer un peu plus cher des produits dits plus écologiques, etc. Et en fait, ça a été l'inverse. Et ça, vraiment, je ne m'y attendais pas. J'ai fait énormément d'économies parce que j'achetais tout d'occasion, que ce soit les vêtements, la vaisselle, les meubles, etc. Parce que je fabriquais mes produits cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients qui étaient à la fois sains, simple et bon marché, parce que j'utilisais moins de produits jetables, j'utilisais des produits durables qui me duraient littéralement 10 ou 15 ans. Et en fait, j'ai fait mes petits calculs et j'ai trouvé qu'en fait, pour les mêmes produits, pour le même quotidien, je dépensais 30% de moins. Donc, ce qui me faisait peur au début, en fait, ça s'est révélé être une démarche super facile. Il y a juste la transition qui m'a demandé un peu d'effort et de recherche. Mais après, maintenant, ça fait 4 ans que c'est des habitudes complètement ancrées dans mon quotidien et j'y pense même plus.
Donc, ce que tu dis, c'est que tous les grands clichés de « attention, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, patati patata », où on va perdre en qualité de vie, sont faux. Qu'effectivement, il y a la première démarche, le premier pas qui est souvent difficile, mais qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé. Tu racontes tout ça dans un livre « Zéro plastique, zéro toxique », et tu racontes tout ça sur ton blog. Aujourd'hui, tu en as fait ta vie.
Ouais, exactement. Maintenant, je donne des conférences sur la réduction des déchets un peu partout en France et à l'étranger. Et mon but ultime, c'est de montrer ça. C'est qu'en fait, c'est de montrer que c'est beaucoup plus facile, que c'est accessible à tous, c'est-à-dire tous les budgets, tous les modes de vie, tous les emplois du temps, etc. Et aussi que le but, c'est pas de réduire à néant ces déchets, c'est pas d'arriver au zéro déchet à 100%, mais de réduire petit à petit, comme on peut, à son rythme, à sa façon, et de montrer qu'en fait, on n'est pas obligé de se mettre la pression pour réduire ses déchets, pour réduire ses impacts environnementaux, et qu'en fait, on peut s'amuser. Moi, personnellement, j'adore faire mes tambouilles pour faire mes produits ménagers, mes produits cosmétiques, etc. Donc, j'essaie d'avoir un message positif par rapport à ça.
Des notions de plaisir, des notions de simplicité, le moins mais mieux, et puis j'imagine aussi privilégier le lien aux autres plutôt que le lien qu'on peut avoir aux objets, tout ça est lié. C'est une belle démarche que tu racontes, et donc je le répète pour ceux qui nous suivent et qui seraient curieux de ta démarche sur ton blog Consommons Sainement et dans ton livre Zéro Plastique, Zéro Toxique. Mmh. On va faire une première pause, Aline, et toi, pour nous permettre de prendre un peu l'air, tu es venue avec une musique, laquelle ?
Je suis venue avec L'effet papillon de Benabar.
Et ben allez, c'est parti.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégât immense. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons.
Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant jolie comme expression, petite chose, dégâts immense.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile.
Et de retour dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Aline Gubry. Aline, pourquoi avoir choisi cette chanson pour illustrer ta démarche ?
Parce que l'effet papillon, ça résume un peu toute ma démarche et c'est toutes mes motivations à faire ça. D'abord parce que nos gestes du quotidien ont un impact énorme. Les petits gestes, une fois accumulés, c'est-à-dire nous dans notre quotidien, jour après jour ou personne après personne, ont un impact énorme sur notre santé, sur l'environnement, etc. Donc on peut le voir du côté négatif, c'est-à-dire les petits impacts environnementaux qu'on va avoir vont devenir de gros impacts environnementaux, mais on peut le voir aussi et surtout d'un point de vue positif, dans le sens où on a une marge de manœuvre sur ces impacts. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir facilement, par des petits gestes, éviter de gros impacts environnementaux et aussi avoir de gros impacts positifs autour de soi.
Toi, ça fait 4 ans que tu disais que tu chemines sur cette route que tu qualifies de la microécologie. Mmh. Aujourd'hui, quel est ton constat ? Est-ce que tu sens un intérêt croissant des Français ? Est-ce que tu restes persuadé que cette prise de conscience individuelle, elle est nécessaire ?
Oui, complètement. Alors, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la réduction des déchets, aux impacts environnementaux des déchets, etc. On le voit, moi, je le vois par les commentaires que j'ai sur mon blog, les personnes qui viennent à mes conférences, etc. Je le vois aussi par les entreprises qui en font leur cœur de métier, que ce soit les épiceries vrac qui fleurissent un peu partout en France, à l'étranger, que ce soit les médias aussi qui en parlent de plus en plus. Et ça, moi, ça me donne énormément d'optimisme. Et ensuite, l'action au quotidien, dans notre quotidien à tous, elle est nécessaire. Complètement, mais pas tout à fait suffisante, je dirais. On me dit souvent, mais oui, mais c'est pas à moi de faire un effort dans mon quotidien, c'est aux politiques de le faire, c'est aux entreprises de le faire. Mais oui et non, c'est-à-dire que pour moi, les trois sont complémentaires. Mmh. Les trois sont nécessaires, mais pas suffisants à eux seuls. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, on va pouvoir changer l'offre du marché par la demande. C'est-à-dire que si on refuse d'acheter des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, dans des conditions vraiment délétères d'un point de vue social et environnemental, et qu'on va privilégier des marques beaucoup plus responsables, on va envoyer un message aux entreprises.
C'est déjà ce qui est en train de se passer.
C'est déjà ce qui est en train de se passer, exactement.
Si je ne dis pas de bêtises, en quelques mois, chuté de 20% en France l'année dernière. Donc mm-hmm. là, on voit un vrai revirement. Tu parlais effectivement de l'importance d'agir à toutes les échelles. Il me semble, toi, que tu as travaillé dans une des villes symbole, porte-étendard de cette démarche, de cette mouvance zéro déchet, San Francisco.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé au sein du département de l'environnement de la municipalité de San Francisco, qui est donc une des villes pionnières et les plus avancées dans le zéro déchet à l'échelle d'une grosse ville mondiale. Et donc, j'ai participé aux différentes politiques qu'ils ont depuis une vingtaine d'années. Notamment là-bas, par exemple, chaque citoyen a 3 poubelles, c'est-à-dire recyclage, non-recyclage et puis compost. Il y a aussi des lois municipales qui interdisent les restaurants, les entreprises à distribuer ou vendre certains objets jetables non recyclables, que ce soit les sacs plastiques, les couverts, tout ce qui est pour les plats emportés qui sont ni compostables ni recyclables, etc. Donc c'était très intéressant de voir le pouvoir qu'a une collectivité locale, puisqu'ils ont quand même réussi à faire énormément réduire les déchets à l'échelle d'une simple ville, j'ai envie de dire. Juste quelques personnes au sein d'une municipalité ont eu des impacts énormes par rapport à ça. Donc là aussi, le public a un impact énorme, mais il faut aussi que ça vienne des citoyens.
Et justement, ces citoyens à San Francisco, est-ce que tu les sentais acteurs aussi de cette transition ou est-ce que tu les voyais plus subir justement ces règles vu qu'elles étaient décidées par des personnes au-dessus d'elles ?
Malheureusement, je m'attendais à des habitants qui étaient vraiment très conscients de la politique environnementale de leur ville, qui étaient très conscients que leur ville était mondialement connue pour ça. En fait, pas du tout. Énormément, j'ai l'impression, en tout cas ça a été mon ressenti, énormément de personnes là-bas ne sont même pas au courant de la politique zéro déchet de San Francisco. Beaucoup ne comprennent pas forcément ce que c'est, et les raisons surtout. Beaucoup ne font pas forcément le tri, alors que c'est une obligation là-bas. Hein. C'est une obligation légale de faire le tri dans leurs 3 poubelles. On peut avoir des amendes d'ailleurs si on ne le fait pas. Après, il faut bien surtout le remettre dans le contexte américain, le contexte culturel. C'est-à-dire que pour nous, ce qui paraîtrait normal ici, ne l'est pas du tout là-bas. On est quand même dans une culture beaucoup plus de surconsommation, où tout est beaucoup plus grand, tout pollue énormément, beaucoup plus qu'en France. Donc si on le remet bien dans ce contexte-là, la politique que mène la municipalité est quand même énormément pionnière aux États-Unis.
Et ce que tu dis aussi, c'est que oui, ça passe par une régulation, oui, ça passe par la mise en place d'infrastructures, mais ça ne peut pas aller sans un accompagnement pédagogique.
Exactement, exactement. Et notamment pour tout ce qui est prévention à la source. C'est-à-dire que réduire ses déchets, ce n'est pas seulement recycler, parce que le recyclage est quand même un processus très énergivore, hein, qui dépense bien beaucoup sûr, d'énergie. Alors il y a énormément d'impact positif, hein, du recyclage. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de trier ses déchets. Simplement, d'un point de vue environnemental, ce qui est le mieux, c'est ce qu'on appelle la réduction à la source. C'est-à-dire que le meilleur déchet n'est pas celui qui est recyclable, c'est celui qui n'a jamais été produit. C'est-à-dire que si on a le choix entre une gourde qui représente aucun déchet et une bouteille d'eau qui certes est recyclable, ben le mieux d'un point de vue environnemental, c'est la gourde. Et ça, c'est vrai que c'est pas encore très bien développé à San Francisco.
Et on a à l'échelle encore supérieure, notamment avec le Parlement européen, des décisions récentes qui sont justement en faveur de l'interdiction des produits plastiques à usage unique. On a un couvert, assiette, paille, encore touillettes en plastique qui seront interdites. Et ces objets, on sait qu'ils représentent environ 70% des déchets polluant les océans ou s'échouant sur les plages. Toi, tu vois ça comme une avancée, une évidence ou un manque d'ambition ?
Ah non, clairement, c'est une énorme avancée. Là aussi, hein, c'est nécessaire mais pas suffisant, mais il faut voir quand même le côté positif. C'est énorme. À l'échelle de l'Europe, une simple décision comme ça va éviter d'énormes impacts environnementaux, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et là, on voit aussi le pouvoir qu'a le public là-dedans. Donc voilà, c'est nécessaire, mais il faut aussi que ce soit complété par des citoyens qui veulent aller encore plus loin par des petits gestes simples dans leur quotidien.
Ce qui me semble essentiel, donc du coup, pour illustrer ce que tu dis, c'est que s'il y a effectivement une vraie régulation, une vraie ligne de mire qui est tracée par les organes transnationaux, on a effectivement une implémentation qui est hyper nécessaire à l'échelle des villes, mais derrière, on a une appropriation qui doit être du citoyen. Tu l'as dit, nous, citoyens, on a tous les intérêts à s'approprier cette démarche parce que oui, c'est bon pour la planète, mais en fait, c'est aussi et surtout bon pour nous-mêmes. C'est une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de produits que nous utilisons au quotidien, du goût, une meilleure santé, etc., etc. Concrètement, des personnes qui nous disent « Bon, bah, ça fait 20 minutes qu'ils tournent autour du pot, et ils ont envie de s'y mettre. » Qu'est-ce que tu leur conseilles de manière très efficace, peut-être très rapide, très simple, très... L'expression même de tout ce qu'on vient de se dire, à ton avis, toi, elle passe par quelle action à mettre en place directement dans son quotidien ?
Alors, il y a plein d'actions qui me viennent. Ça peut être, par exemple, prendre des produits, des aliments qui sont moins emballés, le moins emballés possible. Par exemple, éviter quand on peut les fruits et légumes prédécoupés, préemballés en barquette. Ça peut être, si on peut, acheter en vrac, donc tout ce qui est aliments secs, donc les haricots secs, le riz, etc. Si on peut, hein, on n'a pas toujours de quoi acheter en vrac à côté de chez soi. Ça peut être remplacer ses produits ménagers par un mélange d'eau et de vinaigre blanc, à peu près 50-50, parce que le vinaigre blanc est naturellement antibactérien et anticalcaire. Ça peut être remplacer ses cosmétiques par des alternatives faites maison, mais ultra simples. Vraiment, il ne faut pas s'embêter pour les cosmétiques. Par exemple, ça peut être remplacer son stick à lèvres par du beurre de karité pur. Hein, y a même pas de mélange à faire. C'est même pas une recette tellement c'est simple. Et ce même beurre de karité, il peut remplacer en fait plein de baumes cicatrisants, de crèmes pour les mains, etc. Pareil, on peut faire des masques pour les cheveux avec des huiles végétales ou du beurre de karité. Ça peut être aussi éviter tout ce qui est objets jetables qui sont un peu partout dans notre quotidien. Prendre son cabas pour faire les courses. Il y a même des cotons démaquillants lavables qui existent. Donc, c'est des petits disques ou des petits gants très doux, un peu comme des serviettes de toilette, mais encore plus doux. et qu'on lave avec son linge, tout simplement. Donc il y a plein de petites astuces vraiment ultra simples. Et là aussi, je répète encore, le but, c'est pas de tout faire, mais de choisir les astuces ou les recettes qui vous conviennent à vous et qui sont adaptées à son quotidien, parce que certaines astuces vont pas être adaptées aux personnes qui sont pressées, qui ont des enfants, qui ont pas de quoi acheter en vrac à côté de chez eux, etc. Donc vraiment, le but, c'est de prendre ce qui nous fait envie, ce qui pique notre curiosité, et ce qui est adapté, ce qui va être durable dans son quotidien.
Tu parles de consommation, beaucoup d'objets, d'alimentation. Juste pour rappeler qu'en général, la meilleure manière d'acheter en vrac, c'est de faire le marché, tout simplement.
Exactement.
Ça, c'est une manière très simple d'avoir accès à des produits de qualité, souvent locaux, qui sont du coup, si on ramène son sac, son cabas, sans emballage, ça c'est un excellent point. Et moi, à l'époque où je creusais aussi ces sujets, je me suis rendu compte que oui, on avait pas mal d'opportunités de modifier notre consommation, mais rien que chez nous, tout est pollution. Je m'explique, l'air à l'intérieur de nos logements est plus vicié et plus pollué que l'air à l'extérieur. Les peintures, les désodorisants, là aussi, il y a beaucoup de travail, non ?
Oui, il y a beaucoup de travail. Après, il ne faut pas non plus voir tout ce qui peut être toxique chez soi, parce qu'après, ça fait peur. Là aussi, on peut les réduire petit à petit, à son rythme. Après, ça peut être des astuces très simples, comme pour la pollution de l'air, c'est aérer 10 minutes tous les jours, etc., aux heures les moins polluées si on est en ville. Voilà, rien que remplacer ces produits ménagers par du vinaigre blanc qui est tout simple, avec lequel il n'y a aucun risque, rien que ça, vous allez réduire énormément votre exposition à des perturbateurs d'hormones. Donc vraiment, toujours aller au plus simple et voir les énormes impacts qu'on peut avoir sur soi et sur son environnement, dans tous les sens du terme.
Et justement, tu parles des impacts sur soi. Il y a quelque chose qu'on porte sur nous tous les jours, ce sont nos vêtements. Qu'est-ce qu'on fait du côté des vêtements ? Est-ce qu'on bannit complètement les vêtements synthétiques ?
Alors, moi, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, pour les vêtements qui sont directement en contact avec le corps, on peut préférer des matières naturelles comme le coton, etc. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas aller voir jusqu'aux détails comme ça. En tout cas, pour les vêtements, moi, je les achète uniquement d'occasion. Ça, c'est pour réduire l'impact environnemental. Et en fait, j'achète quasiment tout d'occasion depuis 4 ou 5 ans. Donc, que ce soit les meubles, les vêtements, la vaisselle, en fait, on peut tout trouver d'occasion pour 3 ou 4 fois moins cher pour le même produit qui est parfois encore en magasin. Et surtout, l'occasion, ça veut ni dire que c'est démodé, ni dire que c'est abîmé. Moi, j'ai acheté des vêtements qui étaient encore avec leur étiquette, qui n'avaient jamais été portés et qui étaient d'occasion, 3 fois moins cher, sans les impacts environnementaux derrière.
Donc là, ça, c'est vraiment dire oui à plein de manières de consommer différemment. C'est la consommation. Est-ce que toi, tu irais aussi même jusqu'à des fois dire non, je m'explique, ça peut être notamment avec une plastique attaque, comme il y a de temps en temps dans des supermarchés. On va faire les courses dans les supermarchés, et puis en fait, au moment de la caisse, on laisse tous les emballages pour dire ces emballages sont inutiles, je ne les veux pas, assumez vos responsabilités. Ou est-ce que même, de temps en temps, tu soutiens des mouvements un peu plus politiques, des pétitions, des choses comme ça ? Est-ce que tu peux nous donner des pistes aussi pour agir à cette échelle-là ?
Alors, je fais ça de temps en temps, mais je tiens quand même à séparer les deux, parce qu'on peut avoir envie de faire l'un sans faire l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de changer ces petits gestes du quotidien sans forcément avoir le tourner dans une vie un peu plus militante. Après, moi, j'ai participé à une plastique attaque à Paris l'année dernière. Alors, je tiens aussi à dire qu'il faut l'accord du magasin, que c'est quand même quelque chose d'organisé qui n'est pas, qui n'a aucune répercussion sur les employés, par exemple. Ils n'ont pas à nettoyer quoi que ce soit derrière, hein. C'était vraiment très respectueux. Après, oui, je signe des pétitions parce que là aussi, c'est complémentaire. Le côté un peu plus message politique est complémentaire avec les impacts que j'ai, moi, avec mes petits gestes. J'essaie aussi de pas trop rentrer dans l'image de la militante écologiste, non pas qu'il y ait quelque chose de négatif, mais parce que juste je tiens à montrer qu'on n'est pas obligé de faire l'un pour faire l'autre. Et voilà, il peut y avoir des clichés avec le mot militantisme, etc. Donc on n'est pas obligé d'être extrémiste dans quoi que ce soit pour mettre en place cette démarche de petits gestes du quotidien.
En tout cas, ton site Consomme Enseignement, lui, est une formidable manière de passer à l'action. Je redonne l'adresse que je n'ai d'ailleurs pas donnée. C'est www.consommeenseignement.com. J'ai vu qu'on pouvait y trouver notamment des petits guides téléchargeables qui permettent de passer à l'action facilement. Et si certains veulent soit offrir, soit s'offrir une bible du zéro toxique, zéro plastique, qui est d'ailleurs à l'inverse, c'est ton livre Zéro plastique, zéro toxique.
Exactement. Voilà. Et les petits e-books et guides illustrés, ils sont gratuits sur le blog.
Ouais, c'est ça. Tu fais bien de le préciser. Merci beaucoup, Aline, pour ce moment passionnant d'échange. Et je te souhaite longue vie au zéro déchet, longue vie au zéro plastique.
Merci à toi.
Et voilà, on va pas changer les bonnes habitudes, ça commence par moi l'émission, ça passe trop vite et c'est déjà terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'action éco-citoyenne. Merci à Raj pour son soutien, merci à Raph à la technique. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur raj.fr ou sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine, salut.
Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.